à Washington.
Bonjour à tous le monde. Aujourd'hui, édition du lundi 4 janvier 2016. En direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. Voici les titres de l'actualité ce matin.
En République centrafricaine, l'ANE a publié dimanche 27% des résultats. Faustin Archange Touadéra, candidat indépendant, confirme son avance sur ses rivaux.
Ancien Premier ministre de François Bozizé, Faustin Archange Touadéra est un gros outsider venu troubler les pronostics.
Une dizaine de candidats à la présidentielle du 21 février au Niger. La date limite de dépôt des dossiers de candidature était fixée au 2 janvier.
Parmi les 16 candidats, aucune femme, pas également un indépendant. Ils sont presque tous connus, à quelques exceptions près.
Les États-Unis se disent profondément déçus par la décision du président rwandais Paul Kagame de briguer un troisième mandat.
Au moins 5 personnes ont été tuées dans un puissant séisme qui a touché le nord-est de l'Inde tôt ce matin.
L'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'attaque de son ambassade à Téhéran suite à l'exécution d'un dignitaire religieux chiite saoudien.
Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En République centrafricaine, les résultats partiels et provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier continuent de tomber au fur et à mesure qu'ils sont traités. À la date de dimanche, l'Autorité nationale des élections n'a publié que 27% des résultats. On fait le point avec Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui.
Les derniers résultats partiels et provisoires d'hier soir donnent toujours en tête le candidat indépendant numéro 2, Faustin Archange Touadéra, qui a récolté 120 838 voix. Ancien Premier ministre de François Bozizé, Faustin Archange Touadéra est un gros outsider venu troubler les pronostics. Le candidat numéro 1 de l'URCA, Anissé Georges Doléguilé, garde toujours le second rang avec 68 547 voix. Deux fils d'anciens présidents, Désiré Zangabilal Kolingba et Jean-Serge Bokassa, occupent les 3e et 4e places avec respectivement 39 952 et 33 958 voix. Le candidat du MLPC, Martin Ziguélé, considéré comme l'une des têtes d'affiche de ce scrutin, occupe pour le moment la 5e position avec 27 381 voix. Seulement 27% de ces résultats sont rendus publics par l'Autorité nationale des élections. Les résultats de certaines préfectures comme l'Ouham, Luampindi, la Waka, la Vakaga et la Basse-Koto ne sont pas encore traités. Les autres résultats sont attendus ce lundi à 13h et 17h, heure de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Samedi dernier était la date limite de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 21 février au Niger. Au total, 16 dossiers ont été réceptionnés par le ministère de l'Intérieur qui doit les transmettre à la Cour constitutionnelle pour validation. Détail avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Parmi les 16 candidats, aucune femme, pas également un indépendant. Ils sont presque tous connus, à quelques exceptions près. Issoufou Mahamadou, le président sortant, Seni Oumarou, qu'il a battu au second tour en 2011, à Mahamadou, en prison dans le cadre de l'affaire de trafic de bébés, tout comme Abdoulabo de la CDS Rahama. L'ancien président de la République, Maman Ousmane, parrainé par une autre formation politique outre que son CDS traditionnel, et Amadou Bakar Sissé, ministre jusqu'en septembre 2015, sont les plus connus et seront probablement les plus cotés par les électeurs. Quelques jeunes feront aussi parler d'eux. Il s'agit de Ibrahim Yacouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République, et Maman Kassou Mokhtar, ancien maire de la capitale économique Maradi. Les dossiers seront transmis à la Cour constitutionnelle qui doit statuer avant le 9 janvier pour validation. Dans l'entretemps, le rapport d'audit du fichier électoral commandité par la Commission électorale nationale indépendante auprès de l'OIF sera aussi disponible. Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Les États-Unis se disent profondément déçus par la décision du président rwandais Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Avec cette décision, le président Kagame rate une occasion historique de renforcer et consolider les institutions démocratiques que le peuple rwandais s'est échiné à bâtir depuis plus de 20 ans, a fait savoir le porte-parole du département d'État américain John Kirby dans un communiqué samedi. « Nous sommes particulièrement préoccupés par les changements visant à favoriser un individu », a ajouté M. Kirby en appelant le gouvernement rwandais à respecter le droit des citoyens à la liberté d'expression, de conscience et de rassemblement pacifique.
25 candidats sur 28 postulants ont été retenus pour participer à la prochaine élection présidentielle aux Comores. C'est ce qu'a confirmé la Cour constitutionnelle dans un arrêt rendu samedi. Les Comoriens de l'étranger, dont environ 300 000 vivent en France, ne pourront finalement pas voter, contrairement à ce qui avait été annoncé par le ministère de l'Intérieur il y a 6 mois. Le premier tour des élections est prévu le 21 février. Seuls les 3 candidats arrivés en tête participeront au second tour le 18 avril.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 5 personnes ont été tuées dans un puissant séisme qui a touché le nord-est de l'Inde tôt ce matin, selon un nouveau bilan des autorités indiennes. 5 personnes ont été tuées et 33 ont été blessées, a déclaré un responsable de l'autorité de gestion des catastrophes naturelles à l'AFP. Le séisme de magnitude 6,7 a frappé dans la nuit le nord-est de l'Inde, près de la frontière avec la Birmanie et le Bangladesh.
L'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'attaque de son ambassade à Téhéran et la violente réaction iranienne à l'exécution d'un dignitaire religieux chiite saoudien. Les précisions de Timothée Donangmaye.
Lors d'une conférence de presse à Riyad, le chef de la diplomatie saoudienne a dit que son pays exigeait le départ sous 48 heures des membres de la représentation diplomatique iranienne. Adel Al-Jubeir a dénoncé, et je cite, « les ingérences négatives et agressives de l'Iran dans les affaires arabes ». Les attaques par des manifestants de l'ambassade saoudienne à Téhéran et du consulat saoudien à Machad constituent, selon le ministre, une violation flagrante de toutes les conventions internationales. Adel Al-Jubeir a accusé les autorités iraniennes de n'avoir rien fait pour les empêcher. Les relations déjà mauvaises entre l'Iran et l'Arabie saoudite se sont nettement dégradées suite à l'exécution samedi en Arabie saoudite du cheikh chiite saoudien Nimir Bakr el-Nimir, un critique virulent du gouvernement de Riyad. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne ont dit craindre que cette exécution n'enflamme davantage les tensions entre les communautés chiites et sunnites.
Des militants non identifiés ont tenté d'investir le consulat indien à Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, ce dimanche. Selon le porte-parole du gouvernement local, ils ont tiré des roquettes sur le consulat, provoquant une fusillade avec les forces de sécurité. Des unités des forces spéciales s'apprêtaient à lancer une opération contre les assaillants, a fait savoir le porte-parole.
5 kamikazes du groupe État islamique ont attaqué dimanche une base militaire irakienne au nord de Bagdad, tuant au moins 12 membres des forces de sécurité. Ils ont aussi blessé 20 autres agents des forces de sécurité, selon les autorités. 2 des kamikazes ont fait exploser leurs explosifs sur leur véhicule à la porte ouest du camp Spicher, une ancienne base américaine près de la ville sunnite de Tikrit. Les 3 autres se sont fait exploser à l'intérieur du centre de formation de la police irakienne. Le groupe État islamique a revendiqué ces attentats.
La Suède, dépassée par l'afflux de migrants, exige à partir de ce lundi une pièce d'identité pour franchir en train ou en autocar le pont de l'Öresund, principale porte d'entrée des réfugiés dans le royaume. Selon l'AFP, cette mesure concerne également les ferries empruntant le détroit de l'Öresund.
Un an après, l'assassin court toujours. C'est le titre du numéro spécial de Charlie Hebdo qui paraît ce mercredi. Pour le premier anniversaire de l'attentat djihadiste qui avait décimé son équipe, l'hebdomadaire satirique français met en une un dieu barbu armé d'une kalachnikov et à l'habit ensanglanté. Selon l'AFP, ce numéro doit être tiré à environ 1 million d'exemplaires, dont des dizaines de milliers expédiés à l'étranger. 12 personnes avaient perdu la vie dans l'attaque par des djihadistes de l'hebdomadaire à l'irrévérence assumée envers les religions qui avaient publié des caricatures du prophète Mahomet.
Enfin, ici aux États-Unis, le candidat à l'investiture du Parti républicain, Donald Trump, minimise l'importance de son apparition dans une vidéo de recrutement du groupe somalien Al-Shabaab. La vidéo montre Trump lors d'un meeting électoral en Caroline du Sud, au cours duquel il a lu une déclaration demandant au gouvernement américain d'interdire l'entrée du pays aux musulmans en réponse à la sanglante attaque contre un complexe gouvernemental de San Bernardino en Californie. Trump a déclaré à la chaîne de télévision CBS qu'il a dit ce qu'il a dit et que Al-Shabaab a utilisé d'autres personnes dans ses vidéos.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Et ce matin, c'est avec Timothée Donangmaye.
Beau cadeau du nouvel an pour les ménages camerounais. Le président Paul Biya a annoncé dans son discours à la Nation une baisse des prix du carburant à la pompe et une hausse du montant des allocations familiales versées aux travailleurs, ceci à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, le carburant super passe de 650 à 630 francs CFA et de 600 francs à 575 francs CFA pour le gasoil. L'Éthiopie poursuit les travaux de construction du barrage controversé de la Renaissance sur le Nil, malgré le litige en cours avec les pays avec qui l'Éthiopie partage les eaux de ce fleuve, comme l'Égypte et le Soudan. Dans un communiqué publié samedi à Addis Abeba et que cite l'agence APA, le ministre éthiopien des ressources en hydraulique et de l'énergie, Motuma Mekasa, a déclaré que le projet du barrage ne sera pas interrompu et que les travaux se déroulent selon le calendrier prévu. L'Éthiopie assure que ce barrage est destiné à répondre à ses besoins énergétiques. Elle a convenu, avec l'Égypte et le Soudan, de confier au cabinet français Artelia et BRL l'étude de faisabilité du barrage et de son impact pour les pays en aval. Ici aux États-Unis, l'industrie de la bière artisanale connaît une véritable explosion depuis une décennie. Selon l'Association des microbrasseries, le nombre d'unités est passé de 1400 en 2005 à plus de 4000 maintenant. Reconnaissant la croissance dans ce secteur, certaines universités ont commencé à offrir des cours en ligne sur la mise en place de microbrasseries. L'Université de Portland, dans l'État de l'Oregon, a ainsi lancé son programme en 2013 et aujourd'hui, son certificat en gestion de microbrasserie attire des étudiants du monde entier.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. On retrouve Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. Bonjour Élisée.
Bonjour Bagassi.
L'année 2016 commence mal pour le football ivoirien. L'ex-international Steve Gohouri a été retrouvé mort en Allemagne.
Oui, le corps du défenseur âgé de 34 ans en fin de carrière dans un club de 4e division Haut-Rhin, Steinbach, a été repêché jeudi dernier dans le Rhin, près de Düsseldorf. Sa famille avait signalé sa disparition le 12 décembre dernier, peu de temps après avoir expliqué à ses coéquipiers qu'il partait rejoindre justement sa famille à Paris. Impossible pour le moment d'expliquer les circonstances exactes de son décès. L'autopsie n'a révélé en effet aucun signe de violence. Steve Gohouri a évolué dans plusieurs clubs européens, Boulogne, Mönchengladbach, Wigan et plus récemment le Maccabi Tel Aviv. Il avait porté le maillot des éléphants à 13 reprises, présent également dans le groupe lors de la CAN 2008 et du Mondial 2010.
L'actualité plus sportive à présent sur le terrain avec la 8e journée du championnat gabonais de football de la première division.
Avec le leader AS Pélican qui conforte sa première place grâce à sa victoire de 2-0 face à l'USO. Pélican qui totalise 18 points tout comme Akanda et Mangasport, respectivement vainqueur de l'USB 1-0 et de l'AO CMS 2-0. Le match au sommet de cette 8e journée a vu la victoire de Missile 2-0 face à Canon 105. Et puis en ouverture de cette journée, CF Mounana a pulvérisé l'Olympique de Mandji 7-1.
En Tunisie, le championnat était à sa 14e journée et le leader a été neutralisé.
Effectivement, l'Étoile du Sahel a été contraint au nul par Gafsa, 1-0, ce qui arrange l'espérance de Tunis qui est allé battre le stade gabessien 1-0. 2 points séparent les deux équipes en attendant la sortie du club sportif sarcien. Le champion titre, le club africain, a dominé l'AS Kasserine 2-0 et conforte sa 8e place. Pour le reste, Metlaoui a dominé Sidi Bouzid 3-1. Et puis la jeunesse sportive kérouanaise qui est allée battre l'Avenir sportif de Massa 2-0.
Élisée, le championnat d'Afrique des Nations démarre le 16 janvier prochain au Kenya et quelques sélections activent leur préparation.
Le cas de la Guinée qui a bouclé à Conakry la première phase de sa préparation par un match amical face à Oroya. Le Sili local s'est incliné par 1-0, but marqué par Okansé Mandela. La deuxième phase de cette préparation aura lieu en Afrique du Sud avec 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Au Rwanda, la Guinée va affronter la Tunisie, le Nigeria et le Niger. Et puis, on reste avec vous, Bakassi, pour avoir les résultats des matchs joués cette nuit en NBA, le championnat américain de basketball.
Atlanta a perdu face aux Knicks de New York 97-111. Chicago l'emporte de justesse 115-113 face à Toronto. Et puis, enfin, victoire sans appel de Miami sur Washington 97-75.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassé Koura de retour avec vous sur VOA Afrique. Place maintenant au dossier du jour. Après une analyse de la situation socio-économique que traverse le Tchad, l'Union des syndicats du Tchad, principale centrale des travailleurs du secteur public, fait des propositions pour une sortie de crise. Propositions contenues dans un mémorandum publié en début d'année. La correspondance d'André Kodma-Dingar, notre correspondant à N'Djamena.
Ce document de 23 pages fait suite aux propos contradictoires du président tchadien sur la situation socio-économique du pays. Le 18 décembre 2015, Idriss Déby Itno a déclaré que tous les chantiers arrêtés à cause de la conjoncture financière seront relancés en 2016. C'est une opportunité d'emploi pour les jeunes, dit-il, qui broient du noir. Le 30 décembre 2015, soit 2 semaines après cette sortie médiatique pleine d'espoir, Idriss Déby Itno recule. Il demande à son gouvernement de geler l'intégration de jeunes diplômés à la fonction publique pour 3 ans. Dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2015, il attire l'attention de ses concitoyens en ces termes.
L'année 2016 sera encore difficile. L'insécurité qui s'est installée dans la sous-région va continuer à entraîner dans son siège des perturbations quant à nos échanges commerciaux avec les pays voisins, en particulier le Cameroun, le Nigeria et la Libye, avec pour conséquence directe la hausse des prix des denrées de base et le dérèglement généralisé de notre économie. Les perspectives pour la hausse du prix du pétrole restent faibles et nous devons nous préparer à cela. J'invite fortement le gouvernement à accélérer la diversification de l'économie, notamment la promotion de l'agriculture et de l'élevage, et attirer des investissements privés pour créer d'emplois en faveur des jeunes et transformer ainsi notre économie.
Pour décrisper cette crise sociale, l'Union des syndicats du Tchad UST exige du gouvernement un audit exhaustif sur la gestion de la douane et du trésor public depuis la nomination de son frère cadet Salah Déby Itno à la tête de cette institution jusqu'au jour de son départ et le ramener devant la justice tchadienne. La dissolution de la direction générale des grands travaux présidentiels qui constitue selon l'UST une source officielle de détournement de deniers publics. La nomination à la tête des régies financières des cadres compétents sans considération familiale et politique. Le document précise par ailleurs que les travailleurs n'entendent plus voir leurs conditions de vie et de travail se dégrader et leur pouvoir d'achat, déjà précaire, continue à baisser. Ils ne sont pas prêts non plus à payer le prix de la mauvaise gouvernance et rejettent la politique de deux poids, deux mesures qui se caractérise par l'impunité pour les uns et la rigueur pour les autres. Ils décident enfin de s'opposer désormais aux nominations qui ne respecteraient pas les critères. André Kodouma-Dingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Le 28 décembre, le gouvernement malien a prorogé l'état d'urgence dans le pays jusqu'au 31 mars 2016 à minuit. L'état d'urgence avait été institué suite à l'attaque de l'hôtel Radisson le 20 novembre dernier, une attaque qui avait fait 22 morts. Mais cette prorogation jusqu'à fin mars ne semble pas bien appréciée par tous. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
En raison des menaces graves sur la sécurité des personnes et de leurs biens, le gouvernement du Mali avait décrété l'état d'urgence pour 10 jours. Comme cela ne suffisait pas, le gouvernement a initié un projet de prorogation de 3 mois qui a été adopté par les élus de la nation. Modi Ndiaye, troisième vice-président de l'Assemblée nationale du Mali.
Le gouvernement doit faire des efforts, peut-être un peu plus pédagogues, pour non seulement mieux expliquer aux populations et que celles-ci s'en approprient. C'est un aspect qui est très important.
L'adoption du projet de loi vise à poursuivre la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Elle n'a pas de restrictions aux activités des populations. Zoumananchi Doumbia, député de la majorité présidentielle.
L'état d'urgence ne signifie pas l'arrêt de la vie. Au contraire, parce que certains pensent que les regroupements ne doivent pas se faire. Les regroupements peuvent se faire. Maintenant, c'est aux autorités administratives d'évaluer, en tout cas, le degré d'insécurité. Et dans ce cas, l'autorité administrative compétente va autoriser ou ne pas autoriser le regroupement.
Cette prorogation de l'état d'urgence a été défendu par le ministre de l'administration territoriale qui en a profité pour donner quelques éclaircissements. Abdoulaye Idrissa Maïga.
Encore une fois, c'est un état malade que nous avons pris en charge en 2013. Il s'agit de remettre sur pied, faire en sorte que dans un sursaut national, qu'on le comprenne, qu'il s'agit d'une sécurité qui n'est pas une sécurité exclusive. C'est un bien commun. Ça n'a jamais été dit que l'état d'urgence était décrété pour empêcher les faits de l'envol. Pas du tout. C'est de la désinformation. Je persiste et je signe.
Force est de constater que les 10 premiers jours de l'état d'urgence n'ont pas changé le comportement des Maliens parce que le gouvernement l'avait décidé à la veille des fêtes de fin d'année. Gabriel Tchenou, enseignant.
Nous avons pu constater lors des festivités que l'État n'a pas suffisamment mis les paquets pour mettre les agents dans les différents coins de rencontre afin de sécuriser les personnes regroupées pour les festivités. Et nous avons compris aussi que le citoyen lambda n'a pas du tout changé son comportement. Nous sommes avec la même situation, les regroupements, les manifestations qui sont souvent exagérées et qui bloquent souvent la circulation.
La prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 31 mars 2016 pour une durée de 3 mois laisse les Maliens perplexes. Bruno Loma, journaliste.
Qu'est-ce qu'on va faire concrètement jusqu'au 31 mars? Il y a des regroupements. Moi, je peux dire que c'est déjà un fiasco pour le gouvernement qui n'arrive pas à maîtriser même les foules, qui n'arrive pas à donner un contenu réel à cet état d'urgence. Bon, maintenant, jusqu'au 31, qu'est-ce qui va se passer?
Le texte a été adopté à l'Assemblée nationale, mais avec beaucoup de réserves des députés de l'opposition qui ont exigé son respect et une sensibilisation des populations afin de leur expliquer les vraies raisons de cette prorogation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, dans son message de vœux de nouvel an, a appelé les acteurs politiques à s'impliquer dans le processus électoral afin que l'élection présidentielle du 20 mars prochain soit apaisée et démocratique. L'opposition qui continue à réclamer un processus plus crédible parle, elle, d'une simple provocation. De Brazzaville, notre correspondant Nguela Nguso.
Dans son message de vœux, le président Sassou Nguesso a appelé les acteurs politiques à faire que l'élection présidentielle de mars prochain soit plus apaisée et démocratique. Jean Itadié, président du CAP, voit plutôt une sélection à la tête de l'État qu'une élection véritablement démocratique.
Nous savons que depuis le retour au pouvoir du président Sassou en 1997, aucune élection juste, libre et transparente n'a été organisée au Congo. Toute la classe politique, y compris les partis de la majorité présidentielle et le parti du Congo du travail au pouvoir, disent que la gouvernance électorale est une catastrophe, il faut la changer. Donc quand on propose le 20 mars, ce n'est pas que de la provocation en réalité, c'est un mépris pour le peuple congolais, disant que le 20 mars, le président Sassou ou la personne qui l'aura sélectionné, c'est pour ça que j'appelle ça une sélection, sera installé au pouvoir encore une fois, sans avoir été élu par le peuple congolais. Et je ne sais pas quelle fierté il en tirera au bout du compte, parce qu'en réalité, il n'y a aucun plaisir à se mentir à soi-même.
Deux fois porte-parole de campagne du président Sassou Nguesso en 2002 et en 2009, Alain Akwala, qui plaide pour un projet de société plus axé sur les problèmes des jeunes, appelle l'opposition à montrer sa légitimité en testant sa force dans les urnes.
Bon, M. Itadié est un homme d'expérience et ce qui dessert la vie politique nationale de notre pays, c'est justement cette espèce de doute systématique que les acteurs politiques ont à affronter la vérité du terrain politique. Il faut aller à l'élection pour que nous sortions tout le temps de ces a priori. Je pense que tous les candidats sérieux devront, je crois, avoir le premier programme, bien entendu, ce sont les attentes de la jeunesse. Mais c'est une lame de fond qui doit être ressentie au niveau de toute la classe politique congolaise. S'il y avait effectivement un renouvellement de l'élite politique, je pense que certains acteurs politiques aujourd'hui qui s'expriment encore ne devraient pas avoir voix au chapitre.
Rock Éloge Nzobo, observateur électoral de renom sur la place de Brazzaville, reste lui très sceptique sur la crédibilité de ce processus électoral.
Nous sommes dans une situation, de blocage, c'est-à-dire que on a l'impression que nous sommes en train de régresser. Mais les recommandations sont toujours les mêmes. Vous voyez même nos rapports de l'observation électorale de l'élection de 2002. Je vous dis que ces recommandations sont d'actualité. On doit recommencer avec le recensement et nous devons avoir la maîtrise du corps électoral. Et nous devrions également donner autant de pouvoir à la commission électorale. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, nous sommes partis pour avoir des résultats objectifs? Ce sont autant de questions qu'il faut se poser. Et quelle est la place de la société civile? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes? Ça fait plus de 15 ans qu'ils sont dans la CNEL, représentant la société civile. Sur quelle base?
Jusque-là, Denis Sassou Nguesso n'a jamais dévoilé ses intentions de candidat, mais son parti, le PCT, pourra le désigner très prochainement lors d'une réunion extraordinaire. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Direction la Guinée pour terminer. Alpha Condé a été élu pour un deuxième mandat à la tête du pays pour 2016. Les attentes des populations sont légion. Elles vont de la santé à la gouvernance en passant par l'emploi et la formation professionnelle. Retrouvons notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
De nombreux Guinéens diront que tout est prioritaire, mais quand on pose la question, chacun y va de son constat.
Il doit améliorer la santé. Actuellement, la santé, vraiment, ça manque en Guinée ici.
Il faudra qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour créer assez d'emplois pour les jeunes. Ce qu'il doit améliorer, c'est vrai, la gouvernance. Il a beaucoup fait, mais il doit améliorer encore. Il y a des pratiques malsaines qui se passent. Il a amélioré, mais il doit aller encore au-delà de ça.
On veut beaucoup d'entreprises maintenant. Parce que si les enfants travaillent, nous, les mamans, on est tranquilles. Mais si les enfants ne travaillent pas, parce qu'ils ont fini de faire leurs études, s'ils ne travaillent pas, ça ne va pas chez nous aussi.
Alpha Condé, réélu pour un second mandat de 5 ans, a promis de faire face aux préoccupations des jeunes et des femmes. Ibrahim est diplômé sans emploi. Pour lui, 2016 doit être une année de formation et de promotion des femmes.
Faire en sorte que les jeunes aient une éducation bien qualifiée et puis, je vais dire gratuitement, promouvoir ici l'alphabétisation des femmes et puis leur faire participer activement dans le développement de beaucoup d'activités de la République.
Les Guinéens espèrent une administration compétente. C'est l'avis de Mohamed, étudiant. Il conseille de faire le bon choix des hommes qui auront la charge des affaires publiques.
Il doit d'abord commencer par faire une réforme de son gouvernement d'abord. Par exemple, les ministres qui se comportent ou qui gâchent les affaires de l'État, par exemple, il doit passer forcément par l'administration publique pour gérer les projets de l'État en vue que l'État soit à nouveau organisé.
Organiser l'État, c'est donner force à la loi, pense le journaliste Azokaba.
Il entame le second mandat en prenant des décrets contre des fonctionnaires ou des administrateurs qui ont failli dans leur devoir. Mais au-delà de ces décrets, il faudrait qu'il y ait un suivi. Il y a également eu beaucoup de violations des droits de l'homme en Guinée.
Le président Condé doit inscrire dans son agenda la réconciliation nationale. C'est un avis partagé par Tidjane, élève du second cycle.
Le premier développement, je pense, c'est la réconciliation. Si tous les Guinéens ont une même idée, j'espère que le développement avancera.
Certains Guinéens invitent aussi Alpha Condé sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. 2016 serait une année d'interdiction du port de voile intégral en Guinée, comme cela avait été proposé par les chefs d'État de la CEDEAO. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Anne Alberson était à la réalisation. Présentation Bagassi Koura. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez l'essentiel de nos informations sur notre site internet voafrique.com et aussi sur Facebook, notre page Facebook. Passez une très bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.